Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans cette période très compliquée que nous vivons collectivement avec cette crise sanitaire que nous traversons avec cette Covid qui n'a pas pris encore la décision de nous quitter. On aimerait vraiment que toutes les choses puissent s'apaiser, mais évidemment ce virus est tenace et... Aujourd'hui, nous allons parler justement de cette Covid, du coronavirus, avec le docteur Françoise Pariente-Ichoux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes médecin microbiologiste. Je vous avais reçu déjà pour parler avec vous, puisque vous êtes responsable scientifique de la Gregory Pariente Foundation.
Tout à fait.
Et on avait parlé avec vous de la maladie asthmatique. Et surtout pour alerter, pour dire que l'asthme n'est pas une maladie anodine, que parfois elle peut avoir des conséquences graves, et vous le savez, puisque Gregory Pariente Foundation porte le nom justement de Gregory.
Tout à fait.
Gregory. Peut-être nous pouvons en parler aussi déjà pour replacer dans son contexte votre présence ici.
Tout à fait. Donc, Gregory est décédé d'une crise d'asthme en mars 2020. Et mon frère a créé jour pour jour, 3 ans après, la Gregory Pariente Foundation pour prendre en charge, alerter, informer au quotidien des dangers que représente l'asthme qui peut paraître, qui est toujours encore prise comme une maladie bénigne, ce qui n'est absolument pas le cas.
C'est vrai. Et donc,
Grégory avait 14 ans et il est décédé d'une crise aiguë grave. Ça a été foudroyant. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'il n'est pas le seul aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on regarde les données, vous avez d'abord une maladie qui est extrêmement fréquente, puisque vous avez plus de 10% des adolescents qui sont asthmatiques, entre 10 et 16% selon les études, que vous avez toutes les 3 à 4 semaines un adolescent qui décède en France d'une crise d'asthme, c'est quand même colossal. Et quand on regarde parmi ces adolescents décédés, quelles étaient les caractéristiques, eh bien on s'aperçoit que 3 sur 4 ne suivaient pas bien leur traitement et que 3 sur 4, de ce fait, ne sont pas arrivés vivants aux urgences. Mmh. Grégory fait partie de ce groupe d'adolescents à risque.
Parce que ça veut dire qu'à un âge...
C'est un âge critique.
Un âge critique, l'adolescence, on n'a pas vraiment envie de prendre ce médicament, on se dit peut-être que ça ne sert à rien.
Voilà, c'est une période...
Si les parents encouragent leurs enfants, leurs adolescents, à prendre ce traitement.
Alors, les parents, à l'adolescence, perdent la main sur leurs enfants, parce que ça remonte à la petite enfance souvent, l'asthme, même si ça peut survenir à n'importe quelle période de la vie. Et paradoxalement, ce qui est incroyable, à l'adolescence aussi, les adolescents se sentent mieux. Il y a une période qu'on appelle la lune de miel.
Une période un peu euphorique.
Un peu particulière, ils relâchent la tension. Les parents sont moins derrière, ils vont moins consulter, il y a moins ce suivi médical. Et malheureusement, ils sont en défaut de leur prise de traitement journaliers quand ils en ont besoin, et se produit malheureusement.
Car on sait que finalement l'observance de ce traitement peut en tout cas sauver ces personnes.
Elle est capitale. L'observance du traitement, c'est le point clé. Alors on appelle ça dans le langage des pneumologues le contrôle de l'asthme. C'est le point essentiel.
C'est-à-dire que c'est une maladie qui ne se guérit pas, mais qui peut être contrôlée grâce à un traitement.
Contrôlée grâce à un traitement et grâce à des signes. C'est-à-dire qu'il y a des petites échelles d'évaluation où tous les jours, l'adolescent peut cocher et voir s'il est dans la bonne case où son asthme est contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, il est absolument indispensable qu'il consulte et qu'il y ait un réajustement de son traitement.
Alors, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique aujourd'hui, c'est-à-dire comment on accompagne les patients à observer justement leur traitement, parce que ce n'est pas simple finalement de prendre des médicaments tout le temps, toute la vie. Il faut peut-être mieux faire comprendre à ces adolescents à quoi ça sert. Est-ce qu'ils sont à même d'entendre ce discours et cette éducation thérapeutique, comme toute autre éducation ?
C'est particulièrement difficile à l'adolescence, parce qu'on s'est aperçu que le cerveau évolue différemment selon les lobes. Et il y a quelque chose qui prime chez l'adolescent, c'est tout ce qui touche à l'émotion. Donc c'est d'abord l'émotion qui prime, mm-hmm. et puis ensuite la réaction. Et donc il y a un retard à la prise de conscience qu'ils en ont besoin. Par contre, ce qui est marquant, c'est quand on les saisit justement par l'émotion. Et c'est un petit peu le rôle que nous avons à la Fondation, mm-hmm. c'est justement de partir de l'histoire de Grégory. Et donc, dès l'instant où on les sensibilise au fait que l'on peut mourir d'une crise d'asthme, à ce moment-là, on capte leur attention et on rentre dans l'émotion. Et à ce moment-là, ils sont réceptifs. Mm-hmm. Ils sont réceptifs à nos messages. Alors, c'est toujours pareil.
Quels sont vos messages, justement?
Alors, les messages, c'est de ne jamais prendre à la légère une crise d'asthme, mm-hmm. d'en faire toujours un peu plus qu'un peu moins dans cette maladie parce qu'elle est sournoise et qu'on peut passer à côté, qu'il faut absolument consulter un pneumologue au moins une fois par an parce que c'est le pneumologue qui est capable de faire le bilan complet chez un adolescent qui a été diagnostiqué par son médecin, mm-hmm. par son généraliste ou son pédiatre asthme. Il y a besoin de vérifier que c'est le bon diagnostic, que l'asthme est bien, tous les facteurs de risque de l'asthme sont bien pris en charge, toutes les formes d'allergie. C'est lui qui va faire toutes les explorations respiratoires pour mesurer le degré d'asthme et de réajuster le traitement. C'est l'idéal, c'est vraiment le pneumologue une fois par an. Ça fait partie de nos messages clés.
On va se retrouver avec vous, docteur Françoise Parente-Ichoux. On parle avec vous de l'asthme et notamment, si je vous ai invité aujourd'hui aussi, c'est parce qu'on est dans un contexte particulier qui est lié au coronavirus et on va voir avec vous dans un instant comment on peut justement gérer ces deux crises qui sont parallèles ou qui peuvent à un moment se croiser.
Tout à fait.
Was a dark day in Dallas, November 63, a day that would live on in infamy. President Kennedy was a riding high. Good day to be living and a good day to die. He'd led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise. Right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun. Perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh wolfman, oh wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the throat. There's three bumps coming all dressed in rags. Pick up the pieces and lower the flags. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian Age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window, let the good times roll. There's a party going on behind the glassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President.
Retour dans Objectif Santé sur RCJ. Je suis ravie d'accueillir Dr Françoise Pariente-Ichou, microbiologiste, médecin et responsable scientifique de la Gregory Pariente Foundation, qui s'occupe des enfants, des adolescents asthmatiques et surtout qui interpelle, qui pose les vraies questions et surtout qui dit attention, l'asthme peut être contrôlé, mais si cette maladie n'est pas contrôlée, ça peut être très dangereux. Et ça a été le cas notamment pour votre neveu Grégory Pariente, auquel on pense évidemment aujourd'hui. Si je vous reçois aujourd'hui, parce qu'on avait déjà parlé de cette fondation, qui fait un travail remarquable, d'abord de mise en garde surtout, et ça c'est très important, que ça n'arrive plus à d'autres enfants, à d'autres adolescents, même si c'est encore le cas aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure. Là, on a vécu cette rentrée scolaire en plein Covid, mais vous le dites, ces enfants asthmatiques, Covid ou pas, peuvent avoir leurs crises qui peuvent être totalement indépendantes de ce coronavirus, parce qu'en fait, ces asthmes sont dus à d'autres virus respiratoires. Mais comment peut-on reconnaître justement que cette maladie asthmatique, ou cette crise en tout cas, soit due à un virus respiratoire automnal, comme on a l'habitude de l'avoir, ou à ce virus qui circule maintenant depuis quelques mois?
Alors, l'essentiel, c'est que l'adolescent, les parents, voient si la crise à la même allure qu'une crise habituelle. Vous voyez, ça, c'est la première chose. Si ça n'est pas le cas, déjà, il y a un premier signe d'alerte.
Est-ce que ça veut dire s'il y a une fièvre en plus? Est-ce que ça veut dire s'il y a d'autres signes qui s'ajoutent?
Tout à fait, il y a d'autres signes qui se surajoutent, que vous connaissez, c'est-à-dire la perte de goût ou d'odorat.
Ouais, et notamment chez les jeunes.
Ça, chez les jeunes, c'est tout de suite un signe d'alerte. La fièvre est non spécifique parce que vous voyez justement, on est rentré en période de virus respiratoire automnal. Mm-hmm. Ceux-là sont déjà causes de fièvre.
Ouais. Donc, et le Covid ne pas donner de fièvre.
Oui, mais
il y a des formes sans fièvre.
Il y a des formes sans fièvre. La fièvre, pour moi, quelque part, ça fait toujours un petit peu tic, mais ça n'est pas un facteur spécifique. Mm-hmm. Les courbatures et les maux de tête à prendre en compte aussi. Ouais. C'est ce que me disent nos pneumopédiatres avec lesquels nous travaillons. Mmh. Alors, c'est deux équipes que je souhaite mettre à l'honneur parce que tout ce que je dis est sous leur contrôle. C'est l'équipe de Necker avec le docteur David Drummond, qui est du service du professeur de la Cour, et le docteur Karine Favre-Metz, du service du professeur Deblay à Strasbourg, qui est le président de la Société française d'allergologie. Donc, c'est la base de notre argumentation, c'est de travailler avec eux et de les écouter. La deuxième chose, c'est qu'on analyse toute la littérature et en fonction des nouvelles données, on réajuste. Alors, c'est très intéressant de voir qu'à différentes périodes, on n'a pas toujours pu dire la même chose. Mmh. Lorsqu'on était encore en avril, en mai, on était relativement rassurés sur le risque que représentait l'asthme par rapport au Covid et aux formes sévères. Il y avait des données chinoises qui étaient relativement rassurantes, pour vous dire. La position à l'époque était relativement rassurante. Après, il y a eu de nouvelles données qui sont arrivées, en particulier avec les données américaines, les données internationales. Et là, on a commencé à dire, on ne peut pas dire s'il y a, de façon formelle, risque ou pas risque.
Danger ou pas danger, ou en tout cas, caractère exacerbant du Covid sur la crise asthmatique.
Sur la crise, ou si elle était en mesure de créer des formes sévères. Mm-hmm. Est-ce que c'est la forme de risque de forme sévère? Et lorsqu'on est arrivé là, à la rentrée, il y a deux nouvelles études très importantes qui sont sorties, et là qui ont fait dire à nos experts, on a suffisamment de données pour pouvoir dire aujourd'hui que ça n'est pas un facteur de risque de forme sévère. Mmh. Et d'ailleurs, les asthmatiques sont moins sensibles à ce virus, à ce SARS-CoV-2.
Donc là, il y a une étude qui le dit récemment, ça, ce que vous dites, docteur.
C'est des études qui sont sorties cet été et qui ont été déterminantes, dont une qui a été produite par l'équipe de Strasbourg.
Est-ce que c'est parce que justement les asthmatiques suivent un traitement en lien avec, avec les poumons, avec notamment une protection peut-être supplémentaire au niveau pulmonaire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont des anti-inflammatoires qui peuvent peut-être aller dans le sens contraire du coronavirus?
Alors, votre question est très, très intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de données cliniques qui permettent de dire ou non s'il y a un effet protecteur des corticoïdes inhalés corticoïdes. Par contre, il y a un certain nombre de données in vitro qui laissent entendre que peut-être, et ce qui est encore plus intéressant, c'est le ressenti des adolescents. Mmh. Alors, le ressenti des adolescents. Alors, on l'avait au départ perçu par les pneumologues qui faisaient de la téléconsultation. Donc, on était en particulier en relation avec...
Il faut parler dans le micro.
D'accord. On était en relation avec certains pneumologues de ville qui nous aident, le docteur Marie-Pascale Schuller, qui est une grande spécialiste en téléconsultation et de l'asthme, et qui nous disait que les adolescents qu'elle voyait se sentaient protégés. Donc, il y avait déjà cette perception. La deuxième chose, on a fait une étude particulière avec les deux services dont je vous ai parlé au moment du déconfinement. Mmh. Et dans les questions que l'on posait aux adolescents, on leur disait « Est-ce que tu as bien pris ton traitement de fond ?» En cette période, on s'est rendu compte que 2/3 le prenaient bien, 1/3, vous voyez, il y avait déjà du relâchement. Mais les adolescents asthmatiques, en cette période, sont particulièrement attentifs.
Est-ce que vous pensez qu'il faut communiquer davantage par rapport à cette population asthmatique? Est-ce qu'il faut avoir un discours différent? Ou est-ce qu'on est exactement dans le même discours que ceux qui n'ont pas de problème asthmatique ou d'allergie notamment?
Non, il faut absolument alerter puisque l'asthme de l'adolescent, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, important en nombre et qui est malheureusement à risque d'une crise mortelle. Mmh. Donc ça, il faut vraiment en parler.
Quelle que soit la présence du coronavirus ou pas, de toute façon,
il faut de toute façon beaucoup plus informer là-dessus. Indépendamment du coronavirus. Par contre, ce qui est aussi important à dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période de l'année qui est une période particulièrement à risque pour les asthmatiques hors Covid.
C'est ça. On a de toute façon, c'est vrai que le Covid est arrivé dans nos vies au printemps dernier. Là, on est dans une période automnale. On sait que l'automne est pourvoyeur de virus respiratoires.
Complètement.
Et donc là, il faut peut-être redoubler d'efforts. Ou est-ce que finalement, on est encore dans l'inconnu par rapport à ce coronavirus qui réserve encore des surprises parce qu'il y a une méconnaissance de ce virus qui est encore nouveau. Donc finalement, peut-être que notamment sa présence au fur et à mesure des différentes saisons aura des impacts différents aussi et des conséquences différentes.
Il faut être doublement vigilant. Ouais. Il faut être vigilant parce qu'on est en période de recrudescence des crises d'asthme liées, comme vous l'avez dit, à ces virus autonomes qui sont pourvoyeurs de crises d'asthme. Vous avez aussi la possibilité que les allergies arrivent jusqu'à l'école par le biais, vous savez, des vêtements et des poils de chat qui restent, qui restent, ou des acariens, et donc avec une transmission d'un enfant à un autre enfant. Mm-hmm. Et puis, on sait que pendant l'été, malheureusement, il y a ces fameux ados qui arrêtent de prendre leur traitement de fond. Mm-hmm. Et toc, on se retrouve avec 3 causes. Et on voit les courbes qui sont faites tous les ans par Santé publique France, qui est l'institut officiel. Hein, et on voit cette recrudescence des crises d'asthme. Tout ça étant hors Covid. Vous rajoutez le Covid là-dessus. Ça fait beaucoup pour un adolescent asthmatique. Et c'est normal qu'il y ait un petit peu plus d'inquiétude dans cette population, même si clairement aujourd'hui, elle n'est pas plus à risque qu'une autre.
En fait, ce qu'on pourrait dire, enfin, je prends la parole à votre place, mais si je comprends bien, c'est dire à ces jeunes adolescents, prenez bien votre traitement, parce que vous avez des crises d'asthme qui sont potentielles, et que vous prenez un risque à ne pas prendre vos traitements, Et à côté de ça, vivez votre vie comme d'autres personnes vis-à-vis du coronavirus.
Vous pouvez pas
avec
mieux,
les mêmes gestes
mieux,
barrières.
Vous pouvez pas mieux le dire.
Voilà.
C'est
alors,
exactement
la seule
ça.
Question qu'on pourrait ajouter par rapport aux personnes asthmatiques, enfants ou adultes, c'est la question du masque. Est-ce que le masque entraîne peut-être une possibilité de crise d'asthme, le fait de d'avoir cette respiration coupée par le masque, est-ce que, ou en tout cas entravée, on va dire pas coupée, mais entravée alors, par le port du masque, est-ce que c'est problématique pour les personnes asthmatiques?
Alors, l'avis des pédiatres est très clair là-dessus. Ils ne sont pas pour le port du masque chez les petits, mm-hmm. c'est-à-dire qu'entre 6 et 11 ans, non. Mm-hmm. Il n'y a pas besoin, ils sont peu transmetteurs de la maladie. Il n'y a pas de raison, ça sera mal porté, ça peut effectivement générer quelque chose qui est plus négatif que positif. Par contre, à partir de l'âge de 11 ans, et dès qu'on range, on rentre au collège, on ne se pose pas la question.
Mmh. Et qu'on ait asthme ou pas asthme, ça n'a aucune problématique. Le
masque. Aucune problématique.
N'entrave pas le problème respiratoire.
C'est clair que ça n'ajoute rien au niveau respiratoire, le port du masque.
On va se retrouver avec vous, docteur Françoise Parente-Ichoux, pour parler justement de ces crises d'asthme et en concomitance avec cette crise du coronavirus que l'on traverse. On vient de comprendre avec vous que asthme et coronavirus pouvaient finalement être parallèles sans ajouter de la gravité à la crise d'asthme, ce qui est en soi une bonne nouvelle.
Tout à fait.
On se retrouve dans un instant.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, le galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis aimer la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Une très belle version de La Bohème avec Dany Briand, voilà, pleine de joie et qui nous encourage à affronter cette Covid-19. Donc, peut-être, il faut toujours avoir de l'espoir et surtout qu'on est à la veille de Rosh Hashanah et voilà, il faut vraiment qu'on garde l'espoir, mais il faut être toujours vigilant et se dire que quand il y a des traitements, quand il y a des choses qui existent pour faire en sorte d'éviter des choses graves, comme c'est possible aussi dans les crises d'asthme sévères. On en parle avec vous, docteur Françoise Parientichoux. On sait qu'il y a des traitements. La question est celle de l'observance. Et quand il s'agit d'enfants et d'adolescents, on sait combien c'est difficile pour les parents et combien c'est difficile aussi pour ces jeunes ados qui se disent « on veut être comme les autres, on n'a pas envie de prendre des médicaments, on veut se libérer finalement quelque part hein, de cette contrainte. » Mais cette contrainte, c'est aussi une question de survie parce qu'on voit que régulièrement, il y a des jeunes personnes qui décèdent de crises d'asthme sévères. Et si on vous invite aussi aujourd'hui sur RCJ dans mon émission dans Objectif Santé, c'est parce qu'il faut interpeller. Il faut ne pas cesser de dire attention, danger. Mais si on prend le traitement, si on est observant, on peut éviter le pire.
C'est exactement ouais. ça. Vous le dites très bien. C'est-à-dire que le message clé, c'est traitement et contrôle de l'asthme. Ouais. C'est-à-dire contrôle de l'asthme et traitement.
Tout ça. Et ça peut être à vie, parce que la crise d'asthme, il y a des moments plus ou moins sévères dans les crises. Est-ce qu'il y a un moment où on peut dire cette maladie est définitivement contrôlée, c'est du passé? Est-ce qu'il y a un moment où l'asthme, on peut en terminer ou pas?
Ça arrive, ouais. ça arrive, mais tout ça ne peut être dit que par un pneumologue. Ouais. Enfin, pour moi, ça ouais. n'est pas pensable autrement.
Il faut toujours être suivi.
Alors, minimum avec un pneumologue une fois par an, mm-hmm. parce qu'on ne peut pas tout le temps aller voir ouais. un pneumologue. Mais ça, c'est vraiment la base. Et lorsque l'asthme n'est pas contrôlé, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'anormal, si vous faites plusieurs crises alors que normalement vous n'en faisiez pas, que vous êtes obligé d'utiliser votre dispositif mmh. beaucoup plus fréquemment, que vous faites des réveils nocturnes par des toux qui sont liés à l'asthme, mmh. tous ces facteurs font qu'à un moment donné, sur votre échelle de contrôle, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe, vous n'êtes pas contrôlé. Et là, il est absolument indispensable de consulter et de réajuster. Il est probable qu'il doit y avoir un problème au niveau peut-être de la prise du traitement, mmh. du suivi, de l'observance, de la manipulation de l'inhalateur. Mmh. Et tout ça doit être pris en compte. Il est possible aussi qu'il y ait des allergènes qui se soient greffés.
Qui soient des adjuvants.
Qui soient des adjuvants crise. De la crise, qui sont là, présents, mmh. et qui font qu'à un moment donné, il y a quelque chose à prendre en compte plus particulièrement.
Il faut aussi traiter la question des allergies en amont et au bon moment.
Complètement.
Par rapport aux saisons, évidemment. Donc ça, c'est...
Complètement. Il y a, en fonction des saisons, il y a des allergènes. Et puis, il y a tout ce qui est aujourd'hui la pollution.
Donc, la pollution qui est aussi elle-même un facteur aggravant.
Aggravant. Alors, le tabagisme... Ouais. Je ne vous
sûr.
En parle pas.
Donc, surtout à ces jeunes asthmatiques.
À tous ces jeunes asthmatiques.
Ne commencez pas la première cigarette.
Ne fumez pas. Voilà. Ni on fume, ni on reste dans un environnement ouais. de fumeurs. Parce que le tabagisme passif est aussi nocif, je dirais, que le tabagisme actif.
Avant de vous poser la question sur des mesures éventuelles qu'on pourrait préconiser dans les écoles et les collèges, encore un mot sur cette Covid, parce qu'on sait que dans certaines formes, on a dit qu'elles, voilà, la Covid a beaucoup de formes différentes. Ça peut être juste un simple, voilà, ça peut être une perte d'odorat ou de goût, ça peut être des maux de tête, des courbatures, ça peut être une atteinte pulmonaire.
Ah, j'ai oublié une chose ouais. importante. Allez-y. qui est différenciante. J'en suis même désolée. C'est le fait que lorsque l'adolescent utilise sa ventoline en cas de ouais. crise, il ne répond pas. Et dans le Covid, il n'y a aucune raison de répondre à la ventoline. Donc, l'absence de réponse à la ventoline est un facteur d'orientation particulier oui. D'une crise liée au Covid.
D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on prend de la ventoline.
On prend de la ventoline et que ça ne répond pas.
Alors que dans l'asthme, la ventoline réagit.
Ouais. C'est encore un élément qui permet vraiment d'orienter ouais. vers...
Et de faire un diagnostic
différentiel. Encore plus que la fièvre. La fièvre ouais. reste aspécifique, même si pour moi... une fièvre me fait penser un petit peu plus à être en alerte, si ouais. je puis dire, en tout cas.
Mais ce que je voulais revenir sur ces images que l'on a découvertes au scanner pulmonaire, notamment dans des Covid importants, c'est ces plaques en verre dépolies du poumon. Donc en, et est-ce que ça, le fait que le poumon soit fatigué finalement à un moment donné, parce qu'il est justement dans cette maladie du coronavirus, quand il y a une atteinte pulmonaire, avec ces plaques en verre dépolies, on dit que les poumons sont un peu sales, donc il y a une difficulté, il faut que le poumon se régénère finalement pour pouvoir retrouver son oxygène parfaitement, etc. Est-ce que les deux réunis, est-ce que asthme et un poumon qui serait atteint par ces plaques en verre dépolies, est-ce que ça a une incidence sur les crises d'asthme ou pas?
Si vous avez une forme de Covid, c'est là que vous allez avoir ces poumons Covid. Mmh. Mais ce n'est pas forcément relié à la maladie asthmatique. C'est qu'on est sur une forme de Covid.
Ouais. Donc en fait, on va traiter la Covid indépendamment de la crise d'asthme qui, de toute façon, elle est traitée en continu.
Elle est traitée en continu. C'est-à-dire que c'est... Il se passe deux phénomènes, je dirais, en parallèle, mais qui se rajoutent. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau de la tension, en cette période, elle doit être double, liée à cette période de recrudescence des virus automno-hivernaux et le fait qu'il y a le coronavirus et qu'il est indispensable de respecter les mesures barrières. Je dirais une chose, lavage des mains. Je le répéterai jamais assez.
Mais ça, on le disait même avant le coronavirus, mais on ne le faisait pas assez.
On ne le faisait pas assez. C'est bon. Ouais. C'est,
on sait que le lavage des mains, ça permet de ne pas transmettre toutes sortes de virus, que ce soit...
Tout à fait. Mais c'est encore plus important parce qu'aujourd'hui, le port du masque, on en parle beaucoup. Mmh. Il est porté, mais on oublie un peu plus le lavage des mains.
C'est pour ça que le fameux gel hydroalcoolique. Alors, les mesures à l'école, parce qu'on va vers la fin de l'émission... Je sais que c'est un sujet qui vous préoccupe et qui vous importe beaucoup. Comment fait-on passer le message à la fois peut-être aux professeurs, aux encadrants, aux enfants eux-mêmes? À qui doit-on s'adresser quand on voudrait améliorer la prise en charge des personnes asthmatiques dans les écoles?
Il serait fondamental, de notre point de vue d'association de la Gregory Parent Foundation, d'avoir la possibilité... à partir de nos messages, à partir de notre histoire, de sensibiliser les adolescents en direct, parce que comme je vous ai dit, ils sont sensibles à l'émotion. C'est par l'émotion qu'on capte leur attention dans cette maladie. Et là, on a du résultat. Enfin, c'est sûr, parce que nous, on a une grosse expérience. Alors, on interagit beaucoup dans le milieu sportif. Pourquoi dans le milieu sportif? C'est parce qu'il n'y a aucune réglementation aujourd'hui d'éducation des éducateurs sportifs. Donc, on a fait toutes ces formations, on a créé ces formations. Et donc, à partir de là, on est amené, grâce aux éducateurs, à rencontrer les adolescents dans les clubs. Et donc, on s'aperçoit de l'impact qu'on peut avoir. Et nous faisons des vidéos qui sont extrêmement ludiques et informatif, très scientifique. Et donc, c'est ce genre de document qu'on peut présenter. Vous voyez, dans les écoles, c'est des vidéos courtes d'une minute et demie, qui permettent de sensibiliser et ensuite de passer les messages clés que je vous ai donnés. Ouais. Et les enfants les écoutent.
Oui, c'est sûr. Mais est-ce que quand vous dites on va directement vers les élèves pour leur transmettre ce message? Est-ce que ce sont uniquement vers des enfants dont on sait qu'ils ont déjà des crises d'asthme ou c'est vers tous les enfants?
C'est vers tous les enfants. Mm-hmm. Parce que, regardez, dans une classe de 30, vous avez 3 à 4 adolescents asthmatiques. Mm-hmm. Mais qui sait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, il n'y a pas à se cacher quand on est adolescent asthmatique, c'est qu'il y en a au moins 2 à 3 autres qui vous accompagnent dans une classe. Et puis, c'est un chiffre qui est tellement important que ça vaut le coup de s'adresser à l'ensemble. Parce qu'en plus, dans l'asthme, les adolescents entre eux peuvent s'aider. Vous voyez? Oui. Donc, qui mieux que le copain pour dire « Fais attention, est-ce que tu as pris ton traitement? Est-ce qu'au moment où on va faire notre match de tennis ensemble, tu auras pris ton traitement parce que c'est comme ça qu'on va gagner ?» Il y a tout ce travail.
Et vous l'avez dit à l'instant, parce que c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on est asthmatique, on peut aussi faire un match de tennis avec ses amis.
Exactement. Et le sport est bénéfique à l'asthmatique avec un bon traitement. Donc, il faut toujours garder présent à l'esprit ce que vous nous avez dit, l'importance du traitement de fond et l'importance d'être bien suivi.
Merci beaucoup, chère Françoise Parent-Ichoux. J'aime mieux rester sur cette note d'espoir et d'optimisme dans ces périodes difficiles. Et voilà, évidemment, si on a un message à retenir, d'abord que le message circule et surtout qu'on fasse en sorte que ces enfants, ces adolescents ne prennent pas de risques pour leur propre vie, mais qu'ils soient accompagnés, que le message soit donné. Donc voilà, vigilance, vigilance, vigilance. Merci d'être venu.
Et merci de m'avoir une nouvelle fois accueilli.
Et plein de bonnes choses pour cette Gregory Parent Foundation, parce qu'elle est vraiment très utile. Merci à vous.
Merci aussi. Alors,
Shana Tova à toutes et tous, bien sûr, une très bonne santé surtout.